Nous voulons prier. Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oh Seigneur Dieu, c'est vrai que c'est dans un transport de joie et d'allégresse que nous nous retrouvons ce matin dans ta maison, en étant invités par toi-même, parce que tu veux nous faire du bien, parce que tu veux nous bénir, tu veux renouveler ton peuple, tu veux renouveler nos forces, tu veux nous faire voir de nouvelles perspectives. Tu sais combien la marche est souvent rude. Quelquefois nous sommes essoufflés, fatigués, trébuchants. Nous avons besoin d'être encouragés et tu l'as si bien compris. Ce matin, tu veux, ensemble, dans ta présence, tu veux nous encourager. Nous te disons merci pour ce geste paternel à notre égard. Mais aussi, Seigneur Dieu, c'est dans un sentiment de reconnaissance que nous nous plaçons sous ton regard ce matin. Quand Dieu de bonté a pu s'occuper de nous au cours de la semaine et des temps passés dans les moindres détails. Tu as été fidèle à ton Église, tu as été fidèle à ton peuple, à nos familles, à nos frères et sœurs, à notre jeunesse, à nos enfants. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous. Et nous voulons dire avec le psalmiste, oui, l'Éternel est bon pour Israël, l'Éternel est bon pour tous ceux qui le craignent, l'Éternel est bon pour tous ceux qui l'aiment. Mais Seigneur, nous venons ce matin dans un esprit d'adoration et de contemplation. Nous aimerions contempler notre merveilleux Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, dans sa sainteté, dans sa beauté, dans sa gloire. Ô Seigneur, tu es rayonnant de beauté, et comme notre fiancé, notre bien-aimé, époux, ce matin nous voulons prendre du temps pour te regarder, pour prendre du temps dans le silence et dans la méditation, pour te dire, Seigneur, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Seigneur, fais qu'un éclat de ta gloire rejaillisse sur nous, tes enfants. Bénis-nous tous. Fais-nous du bien, Seigneur. Et nous te demandons enfin que par l'aide de ton esprit, tu nous viennes en aide, pour que ce culte que nous t'apportions soit un culte comme tu l'agrées, un culte en esprit, en vérité, qui soit vrai, authentique. Seigneur, nous te demandons de nous donner cette disponibilité de cœur pour que nous puissions écouter. Seigneur, nous te demandons d'éliminer toute autre voix, toute autre pensée qui viendrait s'interposer entre nous et notre Sauveur ce matin, pour que nous soyons tout à toi. Seigneur, que ta présence ce matin remplisse ta maison, remplisse nos cœurs, et que nous soyons tous à toi. Parle-nous, Seigneur, parle à nous tous, ton Église, tes serviteurs, tes enfants t'écoutent. Amen.
Amen. Je vous propose deux lectures maintenant dans la parole de Dieu. Tout d'abord, en acte 20, nous lirons à partir du verset 17 et jusqu'au verset 38. C'est un texte d'introduction avant le texte de la prédication de ce matin, qui sera le suivant, 1 Pierre 5, 1 à 4. Mais tout d'abord donc, acte 20, versets 17 à 38. Il s'agit des adieux de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Premier texte, en introduction au texte de la prédication de ce matin, qui, je vous le rappelle, est celui-ci, 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 4. Et vous voyez que nous arrivons gentiment au bout de cette épître de Pierre commencée il y a quelques mois de cela maintenant. Il restera encore un message de cette épître la prochaine fois, pas dimanche prochain, mais un prochain dimanche au mois d'avril. 1 Pierre 5, les versets 1 à 4. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Je lirai également le verset 5, où je vous prie de m'excuser, j'avais oublié celui-ci aussi, important. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Voici donc le texte de la prédication de ce matin dans la parole de Dieu, que notre Seigneur bénisse sa parole. Dans le passage que je viens de lire il y a quelques instants, Pierre s'adresse explicitement aux anciens des églises auxquels il écrit et il leur adresse une exhortation et un encouragement direct. Et il faut dire ceci, c'est que dans cette épître, aucun groupe particulier de personnes n'a droit à une requête aussi personnelle que celle que nous découvrons ici. Et c'est la raison pour laquelle nous devons d'autant plus y prêter une attention particulière ce matin. Alors on trouve, c'est la raison pour laquelle j'ai lu en acte 20 il y a quelques instants, on trouve dans le Nouveau Testament une exhortation similaire adressée à des anciens lorsque Paul, vous l'avez compris, fait ses adieux aux responsables de l'église d'Éphèse. Et ce que l'on peut dire, très certainement, eh bien c'est que de la même façon que pour Paul, on peut considérer cette exhortation des versets 1 à 5 de ce chapitre 5 de l'épître de Pierre comme étant ses adieux officiels aux anciens des églises d'Asie, églises auxquelles il écrit cette épître. Parce que plusieurs historiens et commentateurs estiment que Pierre est certainement mort martyr une ou deux années après avoir écrit sa première et sa deuxième épître. Alors, pour bien comprendre cette exhortation aux anciens de la part de Pierre, il est important de souligner ceci. C'est qu'elle est une suite logique de ce que nous avons vu la semaine dernière. Elle va tout à fait dans la suite de ces quelques versets 17 à 19 que nous avions considérés. Est-ce que nous comprenons ce matin, puisque je vous dis que c'est la suite de ces versets, c'est que si le jugement de Dieu, comme nous l'avons dit, doit tomber sur l'Église de Jésus-Christ, parce que Dieu prend soin de son Église en la corrigeant, si le jugement de Dieu doit donc tomber sur son Église, ici-bas, cela signifie qu'il va forcément toucher les anciens de l'Église en priorité. Il est évident, en effet, que lorsqu'une Église fait l'expérience de la persécution, lorsqu'elle fait l'expérience de la souffrance, eh bien, ce sont souvent ces responsables qui en ressentent directement ou indirectement les premiers coups, et c'est à eux qu'incombe dès lors la responsabilité de prendre soin de l'Église, d'apporter à l'Assemblée l'aide, le réconfort et la force dont elle a besoin pour tenir ferme au sein de la souffrance. Remarquez qu'au début de ce texte, de cette exhortation, Pierre se définit lui-même comme étant ancien. Et très certainement qu'il se définit comme étant ancien dans un premier temps pour établir un lien particulier d'affection avec les anciens auxquels il est en train d'écrire. Mais il établit son statut d'ancien également pour justifier ce qu'il va leur dire dans quelques instants. Pour leur rappeler qu'il partage avec eux cette même responsabilité. Et c'est un fait. Pierre fut également ancien. C'est vrai qu'il avait le titre d'apôtre et il avait ce statut d'apôtre qui n'a été donné par Dieu qu'à 12 ou 13 hommes. Ils ont 13. Si on prend Matthias et encore Paul qui était apôtre de Jésus-Christ. Mais ce que l'on découvre dans le livre des Actes, et pour vous qui avez suivi cette série d'études depuis quelques mois déjà, eh bien, c'est que nous remarquons que dans l'église naissante de Jérusalem, les apôtres au début faisaient office d'anciens. Et on voit ensuite Pierre voyager et prendre soin des églises de Judée et de Samarie comme un ancien. Et Pierre savait donc combien la tâche était rude. Il était au courant des nombreux pièges, des abus, des tentations du ministère d'anciens, parce que lui aussi était passé par ces tentations, lui aussi avait subi et subissait certainement toujours les pressions quotidiennes, les tensions et les responsabilités du ministère pastoral. Si donc, qui mieux que Pierre pouvait écrire à ces anciens des églises d'Asie? Nul autre que lui ne pouvait à ce moment-là les exhorter et les encourager comme il le fait de la part de Dieu. Le titre de la prédication de ce matin est donc très simple, c'est « Instruction aux anciens ». Et j'aurai trois points. Le premier point, « Soyez les bergers du troupeau ». Le second, « Faites paître le troupeau selon Dieu ». Et le troisième, « La soumission due aux anciens ». Et tout d'abord, « Soyez les bergers du troupeau ». Et c'est la première partie du verset 2. Après avoir gagné avec tact la confiance des anciens auxquels il écrit, Pierre leur rappelle leur devoir. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Pierre les exhorte ainsi à être ou à devenir avec l'Église dans laquelle ils sont ce que sont les bergers qui s'occupent des troupeaux dans les pâturages. En effet, nous comprenons ici que dans l'esprit de Pierre, la charge d'ancien inclut tous les aspects du travail d'un berger, au sens propre du terme, les bergers qu'a côtoyé notre ami Christophe il y a quelques jours en France lorsqu'il est allé agneler avec eux. Pour lui, les responsabilités d'ancien incluent toutes ces charges du berger qui surveille les moutons dans les pâturages, à savoir nourrir le troupeau, le paître, le protéger et le conduire. Quelqu'un a d'ailleurs résumé ainsi les charges d'ancien en reprenant justement cette idée du travail du berger. Et il écrit ceci. Les principales fonctions du berger, telles que la Bible les dépeint, consistent à chercher des brebis perdues, à rassembler celles qui sont dispersées, à veiller sur le troupeau et à le protéger contre les bêtes sauvages et les voleurs, à le nourrir, l'abreuver et le diriger. Pierre veut donc, vous l'avez bien compris, transmettre ce mandat aux anciens d'Asie que paître le troupeau de Dieu est d'une importance vitale pour l'Église locale. Souvenez-vous d'ailleurs que déjà au chapitre 2, nous l'avions lu, il comparait les chrétiens à des brebis qu'on ne peut pas laisser ou qu'on ne peut laisser sans surveillance. Il écrivait ainsi, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Alors nous devons dire ceci. Et lourde pour moi, et cette responsabilité de le dire en tant que pasteur de cette église, mais nous devons le dire d'après le texte biblique, le bien-être du troupeau dépend en grande partie des soins qu'on lui dispense en tant qu'ancien et de l'attention qu'on lui porte. En tant que brebis de Dieu, les chrétiens ont effectivement besoin d'être nourris spirituellement de sa parole. C'est notre charge de donner une nourriture substantielle aux brebis, comme un père donne une bonne nourriture à ses enfants. Les chrétiens, en tant que brebis, ont besoin d'être protégés contre les loups déguisés. Paul avertissait, on ne peut plus clairement, en acte 20, c'est-à-dire les faux docteurs, ceux qui enseignent des hérésies. Les brebis, le troupeau, les frères et sœurs dans l'Église ont constamment besoin d'encouragement, de consolation, de directive, de prière et de correction. L'ancien, dans une église locale, nous sommes quatre dans cette église, mène une vie entièrement consacrée au bien du troupeau. Je dis entièrement consacrée au bien du troupeau. Bien sûr que mes frères ont une charge professionnelle et la charge familiale fait aussi, qui est importante pour eux, ô combien, mais fait aussi partie de la charge du troupeau, car nos épouses et enfants font partie du troupeau. L'ancien dans l'église locale mène une vie entièrement consacrée au bien du troupeau. Un peu comme David qui, souvenez-vous, bien que très jeune, passait ses jours et ses nuits auprès du troupeau de son père Isaïe dans les collines, allant jusqu'à tuer l'ours ou le lion, afin qu'aucune des brebis de son père ne se perde. Disons encore ceci à propos du troupeau sur lequel les anciens sont appelés à veiller. C'est qu'il est ici appelé « troupeau de Dieu ». Et ce que nous comprenons, c'est que ce qui lui confère une valeur toute particulière, c'est qu'il appartient exclusivement à Dieu. Les brebis sont à lui, il en prend soin et il les aime. Et comme Paul l'avait d'ailleurs rappelé aux anciens d'Éphèse lorsqu'il leur faisait ses adieux, il s'agit du troupeau qu'il s'est acquis, lui, par son propre sang. Et voilà donc un avertissement solennel pour les responsables d'Église. Ils ne doivent jamais oublier dans l'accomplissement de leur fonction que l'Église ne leur appartient pas. L'Église ne nous appartient pas, vous ne nous appartenez pas. Et ne doivent en aucun cas, de ce fait, manquer d'attention envers une seule des brebis. Ou ne consacrer leur temps qu'à quelques-unes exclusivement. Il y a des brebis dans le troupeau qui ont une tendance, comme les sangsues, à aspirer, vous savez, et à penser qu'elles sont les seules à exister, à avoir des difficultés et des problèmes. Et dans la charge d'ancien, nous devons, parce que c'est le troupeau du Seigneur, prendre soin des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut prendre plus de temps avec certaines brebis qu'avec d'autres. Un peu comme des enfants, on en a trois à la maison, et il arrive que l'un soit malade. Et c'est clair qu'on ne va pas prendre une demi-heure à une heure du matin avec l'un, puis aller donner une demi-heure à l'autre, qui va très bien pour lui dire, écoute, j'étais bon envers ton frère, alors je vais encore te donner une demi-heure, sinon on va passer une nuit blanche. Il y a des moments où on doit donner du temps plus à certains qu'à d'autres. Mais le troupeau appartient au Seigneur. Et dans ce sens-là, nous devons nous en occuper parce que ce troupeau est exclusivement à lui. Disons encore ceci, c'est que parce qu'il s'agit du troupeau du Seigneur de l'univers, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui est omniprésent, du Dieu qui est omniscient, eh bien les anciens ne peuvent agir comme des mercenaires. Ils font paître le troupeau sans y prendre garde et sans le protéger pour un gain sordide, et nous en dirons quelques mots tout à l'heure. Mais bien au contraire, les anciens se souvenant que le Seigneur a le regard sur eux et sur les siens, sur ses brebis, eh bien les anciens devraient être remplis de crainte et de sérieux dans l'accomplissement de leur mission, parce qu'ils savent que le grand berger des brebis, parce que nous sommes des sous-bergers en tant qu'anciens, que le grand berger des brebis est là et regarde l'accomplissement de leur ministère. Nous devons également nous souvenir de ceci, à propos de l'image du troupeau qui est ici employée. Et c'est une remarque importante. C'est qu'il ne s'agit pas de la seule image qui est donnée à propos de l'Église. Et vous savez comme moi qu'il y en a bien d'autres. Paul écrit à Timothée que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons lu dans cette même épître que l'Église est la maison de Dieu. Il est écrit ailleurs qu'elle est le corps de Christ, qu'elle est une nation sainte. Bien des images nous sont données pour nous parler de l'Église. Et isoler une représentation des autres reviendrait à dénaturer le message biblique à propos de ce qu'est l'Église. Parce que chacune de ces métaphores insiste sur un point particulier. Elle est donc forcément limitée dans sa capacité de présenter toutes les dimensions de l'Église. Mais si on met chacune de ces métaphores, chacune de ces images, les unes à côté des autres, une nation sainte, un peuple à part, la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, un troupeau, alors toutes ces images nous présentent alors l'Église de façon équilibrée. Nous avons un portrait harmonieux de celle-ci, et glorieux également. Et si je souligne cette réalité, c'est qu'il y a un danger de limiter la représentation de l'Église à un troupeau de gens simples, sous la direction d'un berger ou de plusieurs bergers. Et cette vision de l'Église comme étant un simple troupeau a conduit beaucoup de bergers à justifier ainsi l'emprise autoritaire qu'ils exerçaient sur leur Église, ayant réduit les membres au rôle de brebis muettes. Et j'ai un exemple qui date de ce matin. J'ai reçu un téléphone d'un frère que je connais bien et puis qui me téléphone souvent, qui est dans une église en France, qui m'a raconté justement comment, dans son église, les anciens ont pris le troupeau comme des simples brebis et ont caché bien des choses, n'ont fait part de rien concernant leur ministère, même lors des assemblées générales des membres. Pourquoi ? Ben, ils ne peuvent pas comprendre. Il vaut mieux leur cacher, ce sont de simples gens. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où les brebis muettes et les brebis ayant été réduits à ce simple rôle de personnes simples, eh bien, se rebellent parce qu'elles voient qu'elles ont été abusées. Gardons-nous de cette image qui n'est que partielle de la vision de l'Église. Deuxième point, faites paître le troupeau selon Dieu. Ce sont des versets 2 à 4, mais la deuxième partie du verset 2 est jusqu'au verset 4. Comme vous l'avez remarqué, Pierre se soucie beaucoup dans ce texte de la manière dont les anciens font paître le troupeau de Dieu et le surveillent. Et parce qu'il s'en inquiète, il précise les choses. Et il précise ainsi que les anciens doivent s'acquitter de leurs tâches, non par contrainte, mais volontairement. Il s'agit de leur attitude. Il précise encore qu'ils doivent s'acquitter de leurs tâches, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Il s'agit de leur motivation. Et il précise enfin qu'ils doivent s'acquitter de leurs tâches, non comme dominant sur ceux qui leur sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Et il s'agit là de la façon de s'occuper du troupeau de la part des bergers. Donc trois choses. L'attitude, les motivations et la façon de s'occuper du troupeau. Eh bien, je vous invite à ce que nous considérions maintenant ces trois choses. L'attitude, non par contrainte, écrit-il, mais volontairement. Alors il apparaît clairement dans cette exhortation de l'apôtre que Dieu ne veut pas que des hommes travaillent à contre-cœur parmi son peuple. Et c'est pourquoi Pierre met les anciens ainsi en garde contre un service qui serait accompli par contrainte. En effet, si un homme sert comme ancien parce que sa femme ou ses amis, ou les circonstances l'y ont poussé, ou encore peut-être parce que personne ne veut le faire, alors il s'y résout de mauvaise grâce, eh bien il servira dès lors sans joie, et ce service sera accompli avec si peu d'engouement que cela ne pourra dès lors que porter préjudice au troupeau. Et il vaudrait mieux pour un tel homme qu'il renonce à se sacrifier pour un ministère auquel Dieu ne l'appelle visiblement pas. Car ne l'oublions pas, il doit y avoir au fond du cœur du berger un appel divin, un appel que Paul précise dans une de ses épîtres lorsqu'il écrit « La nécessité m'en est imposée ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il est comme poussé par Dieu à s'engager. Paul se considérait comme le dernier des chrétiens et le premier des pécheurs. Mais il y avait une nécessité impérieuse en lui de s'occuper du troupeau et à travailler au sein de la moisson. Alors, maintenant, si chaque ancien de chaque église existant sur cette terre devait se dire « Mais est-ce qu'il y avait vraiment un élan foudroyant pour que j'aille servir Dieu ?» Beaucoup diraient non. Parce que certains bergers ont parfois besoin, du fait peut-être d'une timidité excessive, d'un manque de confiance en eux, ou d'un excès d'humilité, et je ne dis pas cela de façon péjorative, Je dis d'un excès d'humilité car se reconnaissant limité pour cette tâche, il est nécessaire parfois que d'autres frères, ayant reçu de Dieu un discernement particulier, et c'est le rôle aussi des anciens dans une église, leur mettent une saine pression, je dis bien une saine pression, pour les convaincre de leur appel au ministère. Et dans ce sens, qui aujourd'hui ferait un procès à Guillaume Farel, alors ça serait difficile parce qu'il n'est plus des nôtres, d'avoir insisté avec force auprès de Jean Calvin pour qu'il reste à Genève afin d'en devenir le pasteur. Jean Calvin était timide, était un homme qui était peu doué pour les discours, ce n'était pas un grand orateur. Et lorsqu'il est passé à Genève, eh bien il passait à Genève pour se rendre à Strasbourg. Et il se disait qu'à Strasbourg, il pourrait paisiblement se poser dans son bureau et continuer son travail de théologien. Mais son aîné, Guillaume Farel, un homme fougueux pour l'Évangile, ayant rencontré Jean Calvin, lui demanda à Genève, tout d'abord simplement, puis avec une insistance croissante, de ne pas y aller et de rester à Genève, au point de l'invectiver. Et il l'a invectivé de cette façon-là. Que Dieu maudisse ton repos, que Dieu maudisse tes études si en une si grande nécessité, tu te retires. Qu'est-ce que Calvin a dit? Il lui a fait un procès parce qu'il était manipulé? Il lui a dit, mais tu es un gourou, Guillaume Farel. Non. Calvin, finalement, dut se résoudre à rester, comprenant que Dieu l'appelait avec cette sainte vigueur. Et Calvin a écrit ceci, et c'est ce qu'il a certainement dit, « Eh bien, je resterai à Genève, que la volonté de Dieu soit faite. » Il faut de temps en temps, alors je ne dis pas qu'il faut invectiver à chaque fois de cette façon-là, mais parfois c'est nécessaire, parce que des frères sont certainement appelés à un service, mais comme je le disais, parfois, du fait de leur personnalité, ils ont besoin qu'un aîné vienne et leur dise « Oui, c'est la voie du Seigneur pour toi, maintenant tu dois aller de l'avant. » Après avoir dit donc que les anciens ne doivent pas servir par contrainte, Pierre leur indique par contre comment ils doivent le faire, volontairement, c'est-à-dire de plein gré. Cela signifie que ceux qui paissent le troupeau de Dieu volontairement le font parce qu'ils ont librement décidé. Calvin a reçu une pression de la part de Farel, mais c'est lui qui à un moment donné a dit « D'accord, je me soumets à la volonté du Seigneur et librement j'accepte de servir à Genève. » Entre nous soit dit, il est reparti quelque temps plus tard à Strasbourg, ville dans laquelle il a bénéficié de l'enseignement de Martin Bucer, qui lui a permis vraiment de grandir d'un point de vue théologique, et il est revenu ensuite à Genève. Bref. L'esprit de volontariat dont Pierre parle ici n'est autre, à propos des anciens, que celui qui s'empresse de prendre soin des brebis, et le fait joyeusement, délibérément, librement, et avec bonté. Et c'est ainsi que, comme quelqu'un l'a écrit, de même que Dieu aime celui qui donne avec joie, il aime aussi les anciens qui le servent volontairement et avec joie. Avec joie ne signifie pas toujours que la tâche pastorale ou d'ancien est facile. Mais quand on est engagé en tant qu'ancien, même si parfois il y a des difficultés, on fait ce travail avec joie pour notre Dieu et pour nos frères et sœurs. Les motivations du service. Pierre écrit « Non pour un gain sordide, mais de bon cœur ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre dénonce maintenant l'esprit des mercenaires. C'est-à-dire cette attitude qui consiste à servir sans aucun intérêt pour le troupeau, ni pour le maître du troupeau, mais avec un très grand intérêt pour soi-même. Et il y avait à l'époque des bergers qui étaient des mercenaires, enfin, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient payés pour garder le troupeau, mais alors, ils n'avaient que faire de ce troupeau puisqu'ils n'étaient pas à eux. Et cet égoïsme ne peut que conduire à ce que le troupeau soit petit à petit décimé. Du fait de brebis qui sont abandonnées, livrées à elles-mêmes, sans soin, dévorées par les loups, perdues dans les montagnes, périssant au fond d'une crevasse, rachitiques, car nourries d'une herbe trop sèche et trop rare. Et n'est-ce pas le cas de bien des chrétiens aujourd'hui, qui n'ont affaire qu'à des pasteurs, je ne dis pas tous, mais qui n'ont affaire souvent qu'à des pasteurs prêts à se servir eux-mêmes plutôt que de servir Dieu, puis leurs frères et sœurs. Ces frères et sœurs dont je parle, pas les pasteurs, les brebis du Seigneur, végètent aujourd'hui, dans bien des cas, dans une sorte de spiritualité de comptoir, insipide, alors qu'il va bien sonner aux oreilles, mais n'a aucune profondeur spirituelle. Et pour vous en convaincre, je vous invite à lire certains textes du journal Bonne Nouvelle, par exemple, qui n'a de bonne nouvelle que le nom. Je vous invite à lire d'autres éditos pastoraux pour certains journaux régionaux. Pour vous qui habitez le Gros de Vaud, on n'est pas beaucoup dans la région. Vous pouvez regarder, il y a un petit encart pastoral qui ne veut parfois tout simplement rien dire, alors qu'il est politiquement correct. Alors ça, je n'en disconviens pas. Mais qui est dégoulinant de sentimentalisme à bon marché et qui entretient chacun dans sa propre justice et sa médiocrité. On ne trouble personne dans ces cas-là. Mais on ne fait en tout cas pas le travail que le Seigneur nous a appelé à faire. Voilà l'esprit des mercenaires, chers frères et sœurs. Pierre indique par contre l'attitude opposée dans laquelle l'ancien doit paître le troupeau de Dieu. Il doit le faire, dit-il, de bon cœur. C'est-à-dire avec dévouement, avec ardeur, avec zèle, avec enthousiasme. A contrario, je le répète, de ce mercenaire qui, comme beaucoup aujourd'hui, je pense surtout aux jeunes, accomplissent leur travail en reculant, tellement celui-ci est devenu pour eux une nécessité pour vivre et surtout pour profiter des loisirs. Le berger zélé, par contre, est passionné intérieurement par le travail qui l'attend. Même si celui-ci, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas toujours des plus faciles, même si les médailles ne l'attendent pas en retour, même s'il ne reçoit pas une prime en fin de mois. Des anciens dévoués, chers frères et sœurs, sont motivés à prendre soin des brebis. D'abord, avant tout. Elles sont leur raison de vivre, leur principal souci. Ils ne songent donc pas au sacrifice qu'il leur faut consentir, ni à leurs gains financiers. Et un peu comme Paul, qui à certains moments pourvoyait à ses propres besoins en fabriquant des tentes, souvenez-vous, et il le dit en acte 20, pour n'être à la charge de quiconque, eh bien les anciens s'attellent joyeusement à leur tâche, sans attendre en contrepartie, je le répète, de l'argent ou de la reconnaissance, même si la reconnaissance est toujours la bienvenue. Alors je ne sais pas un appel que je suis en train de vous faire, mais ça tombe sous le sens, bien entendu. Et je vous remercie pour les encouragements aussi que vous apportez, que vous nous apportez, que vous m'apportez. Ces frères font plus que leur simple devoir et n'ont pas leur intérêt personnel ni l'argent en ligne de mire. Ils aiment tout simplement et par-dessus tout paître le troupeau de Dieu. Troisièmement, enfin, la façon de s'occuper du troupeau. Non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, écrit l'apôtre, mais en devenant les modèles du troupeau. Alors Pierre réserve le pire et le meilleur pour la fin. La troisième motivation indigne qui pourrait guetter l'ancien, que dénonce ici l'apôtre, est une tentation bien plus subtile et beaucoup plus répandue que la cupidité dont je viens de parler il y a quelques instants. Il s'agit de l'exercice abusif de l'autorité, le goût du pouvoir, l'envie d'asservir les autres et de les tenir sous sa domination. Quelqu'un a écrit à ce propos ceci : l'orgueil est toujours sous les talons du pouvoir. Même un tout petit peu d'autorité peut rapidement transformer une démarche humble en une parade ostensible. Le terme qui est ici traduit par « tyranniser » peut aussi être traduit par « dominer » ou encore « se rendre maître de quelqu'un par la force ». Il décrit, vous l'avez compris, une attitude autoritaire. Et quand il est question de se rendre maître de quelqu'un par la force, ce n'est pas forcément la force physique dont il est question ici, mais parfois une force morale. Et cette attitude est plusieurs fois dénoncée dans l'Écriture. C'est ainsi qu'Ézéchiel, le prophète, dénonce les rois d'Israël en écrivant « Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Seigneur Jésus, lui aussi a souligné l'injustice d'un tel comportement. Il a dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Quant à l'apôtre Jean, souvenez-vous, nous l'avions vu dans sa troisième épître, il dut reprendre l'attitude de Diotrephe, ce pasteur tyrannique. Et il décrit ceci par rapport à lui. « Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Voilà une attitude dénoncée par la parole de Dieu. Des anciens dominateurs et hautains n'ont aucune place dans l'Église. Dans l'Église qui est une famille et qui doit se caractériser par l'amour mutuel, la fraternité, la soumission et l'humilité. Dans ce sens, les anciens ne doivent pas paître l'Église comme de petits tyrans mesquins ou de petits papes. Et d'ailleurs, nous lisons au verset 5, dont nous allons dire deux mots tout à l'heure, que tous doivent se revêtir d'humilité. Et il est question en premier lieu des anciens. Les anciens devraient se souvenir de ceci, c'est que l'Église de Dieu ne reconnaît qu'un seul Seigneur et Maître, un seul, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tous les autres ne seront que des serviteurs. Et je vous rappelle le statut d'ancien, c'est un statut de sous-berger, soumis à l'autorité du grand berger des brebis. Il y a une autorité, elle est réelle, mais ce n'est pas une autorité première. Elle est soumise à l'autorité du grand berger et il y a un esprit de service dans la responsabilité d'ancien. Par contre, donc, et comme les deux fois précédentes, au lieu de dominer sur les autres, Pierre nous apprend maintenant ce que devraient être les anciens ou la façon de diriger le troupeau. Ils devraient au contraire être des exemples et des modèles de vie. Un commentateur a écrit à ce propos que la notion d'exemple cadre tout à fait avec l'image du troupeau. Pourquoi ? Car le berger d'autrefois ne poussait pas son troupeau devant lui, mais il marchait devant les bêtes, comme un modèle. Et dans ce sens, certainement que l'Esprit de Dieu inscrit dans le cœur des croyants qu'il sanctifie le désir de trouver de bons exemples à suivre et à imiter parmi les anciens du troupeau, parmi les responsables du troupeau. Et d'ailleurs, pour ce faire, il utilise bien des exhortations apostoliques qui incitent les chrétiens à prendre exemple sur les hommes de Dieu, sur ceux qui sont appelés à une responsabilité parmi eux. C'est ainsi que Paul, par exemple, encourage plusieurs fois les croyants à prendre exemple sur lui pour l'imiter. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Philippiens 3, verset 17. 1 Thessaloniciens 1, 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle également aux chrétiens ceci. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et je vous y appelle, chers frères et sœurs de notre Église. Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels. Souvenons-nous d'eux. Il y en a beaucoup parmi vous qui étaient là bien avant moi. Souvenez-vous de ceux qui vous ont conduits. Il y a des anciens qui étaient parmi vous. Il y a des anciens qui nous ont quittés, qui sont dans la gloire de Dieu. Il y en a qui nous ont quittés, qui continuent leur ministère. Souvenez-vous de Stuart Olliott, d'Olivier Favre. Je ne veux pas ériger une statue, et certainement qu'ils n'aimeraient pas cela, mais souvenez-vous des qualités de ces conducteurs spirituels. Peut-être M. Duvillard, que je n'ai pas connu, qu'ont connu mes prédécesseurs, et d'autres. Je viens de perdre un de ses serviteurs, enfin je viens, l'Église, qui est décédée il y a quelques jours en arrière, qui a été professeur à l'Institut biblique de Genève, M. Reichen, pour ceux qui l'ont connu. Un homme de Dieu extraordinaire, qui a dispensé des cours à l'Institut biblique, qui a été pasteur au Brésil. Un homme qui a marqué aussi, souvenons-nous d'eux et imitons-les. Et Paul écrit à Timothée, et c'est un appel aux anciens, « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Que Dieu nous fasse grâce. Alors il est absolument évident que si les anciens, par contre, jouent aux petits despotes qui exercent de façon abusive leur autorité sur l'Église locale, eh bien selon ce même principe d'imitation que je viens de citer, mais négativement cette fois-ci, alors d'autres vont suivre leur exemple. Ça, c'est absolument certain. Luttant les uns contre les autres pour la possession du pouvoir et pour la reconnaissance d'autrui. Et c'est un peu l'exemple que je vous citais tout à l'heure du téléphone que j'ai eu ce matin. Le berger a quitté l'église depuis longtemps, mais il est en train de jouer le groupe A contre le groupe B. Puis quand tout d'un coup le groupe A ne lui convient pas, il prend le groupe B. Et finalement, on a affaire à une querelle intestine dont l'ennemi se réjouit certainement, et c'est un faux combat qui va conduire à la destruction de cette Église. Par contre, si les anciens donnent l'exemple d'une fidélité absolue à l'Écriture, eh bien toute l'Assemblée sera encouragée à suivre fidèlement l'Écriture. Par contre, si les anciens se fient à Dieu pour les décisions qu'ils ont à prendre, les choix qu'ils doivent faire, eh bien l'assemblée les suivra. Par contre, si les anciens aiment Dieu et leur prochain, les membres feront de même. Si les anciens sont des hommes de prière, l'Église apprendra elle aussi l'intercession. Si les anciens sont pacifiques, doux, aimants et courageux, l'Église les imitera dans sa grande majorité. Si les anciens sont humbles, les membres du troupeau le seront aussi et fuiront les disputes. Si les anciens sont des serviteurs, eh bien l'Église se caractérisera par l'humilité et un esprit de service à l'image de Christ. Remarquez toutes les influences bénéfiques que les anciens peuvent exercer sur l'Église. Et ce matin, je ne peux que vous demander une chose. Si je regarde à tout ce que je viens de dire, et je pense que mes frères avec moi le diraient aussi, nous aspirons à tout cela. Mais nous n'arrivons pas parfaitement à tout cela. Et nous avons réellement besoin de vos prières. Non seulement nous qui sommes appelés ici sur ce troupeau, mais tous les anciens qui sont appelés à une charge pastorale sur l'Église. Pierre conclut son exhortation aux anciens d'Asie en leur rappelant ceci. C'est que lorsque le souverain pasteur paraîtra, les anciens fidèles emporteront la couronne incorruptible de la gloire. Ce jour-là, les durs labeurs, les sacrifices et les difficultés de la vie pastorale seront pour eux pleinement et largement récompensés. Pierre affirme que lors de cet avènement, ils recevront la couronne incorruptible de la gloire. Alors nous devons certainement comprendre que celle-ci représente symboliquement une récompense ou un honneur particulier. Mais cette récompense est d'ores et déjà réservée à ceux qui auront accompli un travail fidèle et honorable en tant que sous-bergers du troupeau de Dieu. Et contrairement aux couronnes terrestres, qui sont faites en métal précieux ou en laurier à l'époque, pour certains héros romains, eh bien la couronne promise aux anciens est présentée comme incorruptible. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle ne se fanera pas, c'est qu'elle ne se ternira pas. Quel jour de victoire alors pour ces frères qui seront peut-être passés inaperçus ici-bas, qui auront œuvré discrètement, mais qui auront fidèlement et avec persévérance fait paître le troupeau de Dieu. Car le travail d'ancien est un travail persévérant. Vous pouvez demander à Espérance, qui a été pasteur pendant de nombreuses années. C'est un travail persévérant, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas sur 15 jours, ce n'est pas un 110 mètres haies. C'est une course d'endurance. Ces bergers, travailleurs et désintéressés qui m'ont précédé dans cette tâche, nous ont précédé dans cette tâche, n'auront peut-être pas accumulé beaucoup de biens ici-bas, ou beaucoup de gloire. Ils auront peut-être même été critiqués, montrés du doigt et incompris, mais ce jour-là, par la grâce de Dieu, leur œuvre ne passera plus inaperçue et ne sera plus sous-estimée, parce que Christ les récompensera devant toutes les armées du ciel. Ils auront certainement à rendre compte, comme chacun, chaque chrétien, aussi des péchés qu'ils auront commis et peut-être de ce qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. On passera tous devant Dieu. Mais ils seront récompensés pour ceux qui auront été fidèles. Alors que tous les anciens dans ce sens, les responsables gardent le regard fixé sur la récompense qui les attend, surtout lorsque les jours sont mauvais. Il s'agit des anciens, mais pour vous qui avez une autre responsabilité dans l'Église, cela vous concerne également. Tous ceux qui auront mis leurs dons au service du Seigneur, quel que soit leur don, quelle que soit leur responsabilité qu'ils auront fait fidèlement, recevront, au jour voulu par Dieu, une récompense qui ne se ternira jamais. Enfin, au verset 5, et c'est le dernier point, la soumission due aux anciens. Après ces exhortations, Pierre ajoute un mot à l'intention des jeunes gens. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. À qui Pierre pense-t-il? Est-ce que c'est uniquement les jeunes gens? Jusqu'à quel âge? Est-ce que ça s'arrête à 30, à 40? Permettez-moi de penser que cela s'adresse aux jeunes gens et à ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire à des chrétiens qui ont un caractère vif, prêts à servir, à s'engager, impatients par nature. Ça s'adresse à ces chrétiens. C'est un tempérament plutôt caractéristique des jeunes, mais comme dit, ça continue encore un moment. Nous en avons un exemple en France avec notre président. Ça s'adresse donc à ces gens dans leur relation avec les anciens de l'Église. Ces gens qui œuvrent parfois avec ferveur et qui sont avides de changer les choses et de servir. Ces gens-là sont parfois les plus susceptibles à rentrer en conflit avec les anciens de l'Église. Parce que si les anciens n'avancent pas comme ils le veulent, ou comme ils devraient selon eux, et peut-être que parfois c'est juste, s'ils n'avancent pas donc comme ils le veulent, si les anciens n'avancent pas comme ils le veulent, c'est peut-être parfois du fait d'une plus grande sagesse pastorale, ou parfois du fait d'un conservatisme lié à l'âge, ou parfois tout simplement par erreur, car ça peut arriver. On peut se tromper en tant qu'ancien, c'est sûr. Et aucun ancien ne vous dira qu'il a reçu l'infaillibilité papale. Alors, si les anciens ne vont pas assez vite, ne font pas ce qu'ils ont pensé, il n'en faut pas moins pour que ces meneurs fassent connaître avec force leur mécontentement, qui peut parfois conduire à une division d'église. Et Pierre pense donc qu'il convient d'adresser l'exhortation claire à ces personnes, c'est qu'elles ont à se soumettre à leurs anciens, tout aussi difficile que ça soit pour ces personnalités bouillonnantes. D'autant plus que leur promptitude à prendre des mesures, radicales parfois et trop rapides, sans peser les conséquences, pourrait mettre en danger l'Église. On rencontre régulièrement de telles personnes dans les églises. Mon expérience est de deux églises, Yverdon et ici. Mais en tant que responsable de la jeunesse Action Biblique, il y a quelques années, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Parce que j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup d'églises. Et c'est vrai que ce sont souvent des personnes prometteuses. Mais elles ont besoin, avant de commander, de savoir obéir. Et ça, c'est la première des conditions pour apprendre à commander, c'est d'avoir d'abord appris à obéir. Nous savons tous, chers frères et sœurs, que lorsqu'on fréquente une église, il est très facile de commenter et de juger le travail des responsables. Et j'en suis le premier. Jusqu'au jour où l'on est appelé à prendre des responsabilités. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre la réalité cachée, profonde de l'Église et de ceux qui la composent. Et dès lors, les jugements à l'emporte-pièce, les critiques, les avis tranchés, les belles théories, font place à une conscience plus aiguë de sa propre insuffisance. Font place à une conscience plus aiguë de la fragilité de l'Église et de la préciosité de l'Église. Et cela conduit inévitablement à un travail plus calme, dans une proximité plus réelle et plus profonde de Dieu. Chers frères et sœurs, un chrétien zélé et vraiment spirituel peut acquérir une sagesse inestimable et la capacité de diriger, comment ? Grâce à l'expérience ou aux expériences d'hommes plus âgés, ça ne signifie pas qu'ils sont forcément avec des cheveux blancs et une grande barbe, l'image que l'on a du pasteur habituellement, mais d'hommes qui les ont précédés dans la charge d'anciens, même si ces hommes-là ne sont pas les modèles parfaits, parce qu'il n'y en a aucun. Et si peut-être vous êtes ce matin de ceux qui, en public, à la maison, ou intérieurement, secrètement, critiquent, mettent les pieds au mur, sont insoumis aux anciens, qui, je vous le rappelle, sont limités, imparfaits, mais appelés par Dieu pour diriger l'Église et le font de tout cœur, alors souvenez-vous de ce verset. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Est-ce que cela vous empêche d'aller leur parler ? Est-ce que cela vous empêche de dire, écoute, voilà, là je ne suis pas d'accord ? Mais faites-le, bien entendu. Mais il y a des façons de le faire, de s'adresser à quelqu'un qui est en autorité. On peut le faire humblement et respectueusement. Nous n'avons jamais dit et nous ne dirons jamais que nous ne nous tromperons pas et que nous ne commettrons pas d'erreur. Et si tel est le cas, nous sommes prêts en tant qu'anciens, et je pense qu'un ancien qui remplit sa tâche honnêtement devant Dieu et de tout son cœur sera prêt à reconnaître et dire « oui, je me suis trompé », et demander pardon si nécessité il y a. Mais sachez le faire avec humilité, sans envoyer les tomates. Connaissant les risques, toujours latents de désaccords, de querelles et de divisions entre toutes les parties présentes dans une église locale, risques qui sont d'autant plus aggravés par les pressions d'une société hostile, Pierre donne à la fin le meilleur conseil possible. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chers amis, c'est uniquement lorsque tous, anciens, diacres, jeunes gens, hommes et femmes, seront revêtus d'humilité dans l'Église, que celle-ci connaîtra la paix et que l'unité prévaudra. C'est lorsque chacun tiendra sa place et ne voudra pas prendre la place de l'autre. Uniquement à ce moment-là. Combien de combats, combien de souffrances inutiles des Églises auraient évité si elles avaient su accomplir cette exhortation apostolique. Combien de scissions encore aujourd'hui parce que soit des anciens accomplissent leur charge sans zèle, avec autoritarisme et dureté pour un intérêt égoïsme, soit des membres d'Église, en mal de reconnaissance et poussés par l'orgueil, nuisent au travail des responsables en critiquant, en râlant, en s'opposant de différentes façons. Et bien qu'il n'en soit pas de même chez nous. Priez pour vos anciens. Priez pour chacun, pour notre Église, pour nous, c'est vrai, mais pour tous. Pour tous ceux qui sont appelés à des responsabilités, pour que chacun de nous accomplisse sa tâche humblement là où Dieu l'a placée. Vous ne serez pas jugés sur la base du ministère d'un tel ou un tel, mais sur la base des dons que Dieu vous a donnés, de la place où vous vous trouvez. Par contre, si vous faites des commentaires et si vous nuisez au ministère d'un tel ou un tel, là vous serez jugés. Je le serai aussi. Que chacun donc d'entre nous sache prendre sa place et faire son travail pour la gloire de Dieu, là où Dieu l'a placé, je le répète. Et priez, et prions aussi, afin que Dieu, dans sa grâce, envoie des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande, mais combien peu d'hommes aujourd'hui se lèvent ? Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont missionnaires. Où sont les hommes ? Où ? C'est à se demander si la société dans laquelle on est, castratrice, à cause du féminisme ambiant, n'a pas agi dans le cadre même de l'Église. Et très certainement, où sont les hommes ? Prions pour que ces hommes se lèvent, afin qu'ils paissent le troupeau de Dieu, volontairement, de bon cœur et en étant des modèles à suivre. Supplions Dieu. Je ne peux que répéter ce que je disais à l'Assemblée Générale avant-hier soir. Prions, et que ceux qui sont appelés se lèvent pour le troupeau du Seigneur, pour paître ce troupeau, volontairement, de bon cœur et en étant des modèles à suivre. Amen. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui est vérité, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchante, nous dit-elle d'elle-même, parce qu'elle a parlé à nos cœurs et qu'elle continue de le faire et que tu vas l'utiliser pour nous sanctifier tout au long de notre vie. Éternel, ce matin, il a été question de bergers qui, Seigneur, font leur travail parfois comme des mercenaires. Et il y a des exemples dans l'histoire de l'Église d'hommes qui ainsi paissaient le troupeau de Dieu, Seigneur, pour un gain sordide. Mais que tu as rappelé à toi. Des hommes qui se sont repentis, Seigneur, et qui ont changé. Et qui ont marché humblement devant ta face, faisant paître alors ce troupeau volontairement, avec joie, non pas comme en tyrannisant, mais en devenant des modèles. Éternel, nous te prions donc pour ton Église, de façon générale, et pour ses bergers en particulier, te suppliant afin que tu en rappelles beaucoup de ceux qui se sont éloignés à toi. Nous te prions, Éternel, afin que tu continues de secourir ceux qui, humblement, jour après jour, parfois dans bien des difficultés, essaient de paître ce troupeau. Mais Seigneur, tu vois combien beaucoup souffrent, Éternel, de la solitude. Seigneur, beaucoup souffrent parce qu'ils ont peu d'éléments à donner, peu de matière à apporter au troupeau, mais ils font leur travail en pleine dépendance de toi. Encourage-les, accorde-leur des fruits, ô notre Dieu. Accorde à tous les frères et sœurs, Seigneur, que nous avons sur cette terre qui t'appartiennent et qui mettent leurs dons, Seigneur, à ta disposition, parfois humblement et de façon invisible, vraiment de porter du fruit et de faire le peu, Seigneur, mais avec joie et pour ta gloire, sachant que, Seigneur, ce peu que l'on fait et que tu nous demandes de faire peut porter des fruits extraordinaires. Accorde-nous ta grâce dans notre assemblée, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses personnelles, Seigneur, et aussi en tant qu'Église. Et accorde-nous vraiment de vivre selon ta volonté, d'être un peuple humble devant ta face, prêt à t'écouter et à mettre en œuvre ce que tu lui demandes. Secours ceux qui ont des responsabilités, les anciens, les diacres et tous ceux qui sont engagés d'une façon ou d'une autre. Seigneur, encore une fois, même si aux yeux des hommes elle peut paraître, Seigneur, bien humble, ô notre Dieu, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Au début de cette semaine, nous crions à toi afin que, aujourd'hui et les jours qui viennent, nous puissions t'honorer et te glorifier là où nous nous trouvons. Et nous attendons avec espérance le moment, Seigneur, où tu reviendras, où nous serons dans ta présence pour l'éternité, renouvelés pleinement, parfaitement et dans la gloire. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.